Bonsoir à chacun et à chacune, et que le bon nom du Seigneur soit béni. Je suis sûr que vous dites merci au Seigneur de pouvoir vous retrouver dans un lieu de culte où nous pouvons parler, prêcher sa parole, prier, l'invoquer, prier ensemble. Quelle grande bénédiction! Je voudrais faire deux lectures avec vous pour commencer dans Ézéchiel au chapitre 18, du verset 20 au verset 23. Il y a des textes qui nous parlent de certaines choses où nous voyons que Dieu ne veut pas que l'homme meure et que l'homme vive dans son péché. Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. Prophète Ézéchiel, chapitre 18, verset 20e. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Nous voyons le désir du Seigneur, ce n'est pas que l'homme meure dans son péché, mais qu'il se repente et qu'il vive. Plus loin, au chapitre 33, au verset 11 de ce même livre, Ézéchiel 33, verset 11, nous le voyons, c'est le même principe. Ézéchiel 33, verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. » Ézéchiel 33, 11, « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. » Nous allons lire dans l'avant-dernier livre de la Bible, dans l'épître de Jude, cette courte épître, cette lettre qui est très courte, mais qui en dit beaucoup. Épître de Jude, juste avant l'Apocalypse, donc l'avant-dernier livre de la Bible. C'est un texte qui me travaille depuis des semaines. Et je pense même que nous poursuivrons la méditation de ce soir, dimanche matin, tellement ce sujet me poursuit. Mais vraiment, vous allez comprendre pourquoi. Épître de Jude, nous allons donc lire tous les versets de cette lettre, les 25 versets. S'il vous plaît, n'oublions pas, c'est la parole de Dieu, ces choses ont été écrites pour que les hommes puissent passer des ténèbres à la lumière. Ce sont des choses très sérieuses. Lisons-les ensemble, s'il vous plaît. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Voilà la volonté de Dieu. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui change la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel,
lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise, selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. À notre Dieu qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire, dans l'allégresse. Voilà le plan de Dieu, que nous connaissions sa gloire. Que nous vivions éternellement dans la gloire, dans la joie, dans la félicité, dans la paix. Ça fait plusieurs semaines que je lis cette épître et que je me rends compte que dans cette épître, il y a deux choses en vérité. Il y a une exhortation de cet homme, de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, pour pousser les chrétiens à combattre le bon combat. Le bon combat de la foi. Et on comprend pourquoi. Mes frères et sœurs, est-ce que vous aimez que Dieu vous rappelle l'importance de combattre le combat? Ce combat, il durera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Dieu vous aidera. Mais ce combat, il durera jusqu'à la fin. J'ai donné comme titre à ma prédication une question. Iras-tu au ciel ou en enfer? Parce que dans cette lettre, on voit que cet apôtre est poussé, bien sûr, par Dieu à mettre les chrétiens en garde contre les faux docteurs, les fausses doctrines, les faux enseignements. Ces faux docteurs, ces faux enseignements font qu'aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église du Seigneur, on s'éloigne de la foi, on s'éloigne de la vérité, on ne prend pas au sérieux les choses éternelles, on ne prend pas au sérieux des sujets tels que l'enfer. D'ailleurs, j'ai lu dernièrement dans un livre que des chrétiens n'avaient jamais entendu des prédications sur l'enfer. Mais c'est grave, hein. Jamais entendu parler. Est-ce que vous vous rendez compte? Des chrétiens qui disent « Mais moi, j'ai jamais entendu une prédication sur l'enfer. » Et je crois qu'il faut en parler avec tout le sérieux que cela nécessite. Parce que la parole de Dieu en parle. Trois fois dans cette courte lettre, il est parlé de l'enfer. On peut relire les versets. Le verset 6, il parle de ces choses, justement, de ces faux docteurs qui n'enseignent pas véritablement la grâce de Dieu, qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Et il dit, voilà, verset 6, il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Au verset 7, il parle du témoignage de ces villes qui ont attiré le jugement à cause de l'impudicité. Il dit que Sodome et Gomorre, les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche, à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et au verset 13, il parle de ces chrétiens qui sont deux fois morts. Enfin, il compare à des choses de la nature. Vous voyez, par exemple, quand il dit au verset... à la fin du verset 12, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts. Deux fois morts, il fait allusion à la seconde mort, bien sûr. La fin du verset 13, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ce sont des choses qui ne sont pas populaires. Ce sont des choses qui aujourd'hui ne sont plus prêchées parce qu'on a peur de contrarier les gens. On a peur de froisser les susceptibilités, de froisser l'émotivité des gens, etc., etc. Mais moi, je peux vous dire que de la même manière que Jude s'est senti obligé d'écrire cette lettre, moi je me sens obligé de vous parler de l'importance de se préparer à rencontrer Dieu. Parce que les gens ne réfléchissent pas. C'est vrai que notre intelligence est limitée, notre intelligence, vous êtes d'accord ? Notre faculté de comprendre, notre faculté de réfléchir sur les choses éternelles. Dimanche soir, je me suis imposé de réfléchir avant de m'endormir sur l'éternité. L'éternité avec Dieu dans la gloire. Vous avouerez que c'est quand même... ça fait travailler le cerveau, ça. Vous ne trouvez pas ? C'est quand même quelque chose. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et ce texte nous parle à trois reprises, donc, de l'importance, je répète, que l'Église doit persévérer dans la prière. Que les chrétiens doivent combattre le bon combat de la foi jusqu'à la fin. Mais ce texte nous le montre pourquoi ? Parce que après la mort, il y a soit le salut, soit la séparation éternelle. Et pendant que vous priez tout à l'heure, pendant qu'on priait, parce que j'étais avec vous dans la prière, vous le comprendrez, je pensais à tous les gens qui sont en enfer et qui doivent certainement penser, j'en sais rien, mais ils doivent certainement penser, si je pouvais revenir une minute sur la terre. Je peux vous dire que s'ils n'avaient qu'une minute, je sais la prière qu'ils feraient, croyez-moi. Dans l'Épître aux Romains, il y a un autre texte. Je fais l'introduction, je crois, à la prédication de dimanche, parce que je veux que toute l'Église, enfin je veux, je tiens, je souhaite vraiment que toute l'Église comprenne ce sujet. Dans l'Épître de Paul aux Romains, déjà à l'époque, je peux vous dire que ce n'était pas florichon, croyez-moi. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, il parle des hommes qui n'ont pas voulu chercher Dieu. Il parle de ces gens-là, au verset 22, on voit aujourd'hui, c'est une forme de sagesse, d'une pseudo-sagesse, les gens se moquent. Quand on parle de Dieu, on rigole, bon, ça va bien avec le petit Jésus à Noël, mais après, ça va plus. Et à partir du verset 22, lisez quand même, ce sont des textes profondément sévères. Et je crois que si cet épître de Jude est un des messages les plus sévères du Nouveau Testament, celui-ci corrobore beaucoup. Romains 1, 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous avez vu que le niveau fait en baissant. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. comme, voilà le problème il est là, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, regardez la suite, ingénieux au mal. Vous croyez que c'est vrai ça? Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, l'impénitent, ça veut dire, au cas où j'oublierai tout à l'heure, c'est un cœur qui refuse de changer. Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ça, c'est le bon programme, ça. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Voyez ce texte ? Nous montre de ce qui se passe dans la société lorsque les hommes ne cherchent pas Dieu. Lorsque les hommes ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Et moi, je suis persuadé que la faute n'est pas du côté des hommes. La faute, elle est du côté des responsables des églises. Je suis certain que le problème qui s'est produit dans tous nos pays est venu du fait que les pasteurs, à la place de prêcher ces choses, ont prêché des sujets de société, des trucs qui passent un peu partout, qui contrarient personne, mais on a oublié de continuer à prêcher sur le ciel et sur l'enfer. J'en suis sûr. C'est pour ça que je ne juge pas les gens, je suis loin de là. Et Jésus le dira d'ailleurs lorsqu'il dit qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que les gens aient la vie éternelle. Ils disent ont préféré les ténèbres à la lumière. Est-ce que c'est possible de préférer les ténèbres à la lumière? Oui. Dans le texte des Romains, on comprend les gens aiment le mal, ingénieux au mal. Les gens, ils sont capables d'être des génies pour trouver des choses qui sont mauvaises. Et nous le voyons aujourd'hui. Écoutez, je vous apprends rien. La semaine dernière, j'ai écouté à deux ou trois reprises des informations. En France, il y a un maire d'un parti politique qui a célébré un mariage homosexuel. On a interviewé les gens du village ou de la ville et tout le monde était d'accord. Mais c'est bien, nous sommes libres, il faut pas avoir de tabou, etc. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et on milite là-dessus, et on pousse à la roue, et les politiques sont coincés, là, entre le marteau et l'enclume, donc ils cèdent à la pression de ce péché qui envahit notre société. Je peux vous dire que ce sont les élus, certains qui poussent, pour avoir des galons, croyez-moi. Tout le monde applaudit, mais nous venons de lire que Dieu, lui, il applaudit pas beaucoup ces choses. Dieu nous dit que ces choses, on l'a vu dans Jude, on l'a vu dans Romain, ces choses attirent la colère de Dieu. Écoutez-moi, je ne suis pas un spécialiste des prophéties, mais moi je peux vous dire que s'il y a bien quelque chose qui va attirer la colère de Dieu, c'est toute la débauche et l'homosexualité. Les villes de Sodome et de Gomorre nous sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et Dieu nous avertit, et mon devoir c'est de vous avertir, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection, non pas avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais pour que nous comprenions tous que ce sont des choses sérieuses, ce sont les choses les plus sérieuses qu'un homme doit entendre sur la terre. Le plus sérieux, c'est pas de savoir à quel âge vous allez toucher la retraite. Le plus sérieux, c'est que vous entendiez que vous devez, avec beaucoup de sérieux, vous préparer à rencontrer Dieu. Vous êtes libre de vous convertir ou de ne pas vous convertir. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Mais le rôle des serviteurs de Dieu, on l'a vu, ce n'est pas que le méchant meure. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais la Bible le dit de plusieurs manières, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut se préparer à l'éternité. Il faut le faire sérieusement. Et une église qui ne s'appliquerait plus à prêcher ces choses, mais le Saint-Esprit n'a rien à faire dans cette église-là. Je vous choque peut-être, mais c'est la vérité. Et aujourd'hui, on banalise le péché sous toutes ses formes. On accepte tout, c'est même bien. Maintenant, les gens qui vont être, qui ne connaîtront pas la débauche, ça va être un peu des gens ringards. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui disait, si vous faites toutes les expériences sexuelles qui peuvent se présenter, eh bien, ça va vous épanouir. J'ai entendu ça. Ça a donné une drôle de discussion, quand même. Quand je pense qu'on vient de fêter Noël, la venue du Rédempteur qui ôte le péché du monde. Les gens fêtent Noël avec un enthousiasme. C'est sûr que le petit Jésus, tant qu'il est petit, ça, c'est sûr qu'il n'est pas dérangeant. Et en fait, pour rien au monde, on ne fêterait pas Noël. Pour rien au monde, on ne célébrerait pas le petit Jésus. Mais mes frères et sœurs, la venue de Jésus-Christ, c'est la venue du Dieu vivant sur la terre, qui porte nos péchés. Parce que parler de la crèche sans parler du calvaire, ça ne veut rien dire. C'est comme un livre, il n'y aurait que l'introduction et tous les chapitres seraient blancs. Ça n'aurait aucun sens. Mes frères et sœurs, fêter Noël sans comprendre pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre, ça ne sert à rien. Et je voudrais non pas vous parler que de l'enfer, quoique c'est quand même un sujet qui vaut la peine d'en parler. Vous parlez surtout de ce que Jésus a fait sur le bois de la croix pour que nous n'allions pas en enfer. Alors quelqu'un pourrait me dire, mais Dieu n'avait pas créé l'enfer et le problème était réglé. Mais vous savez, c'est facile de mettre sur Dieu leur responsabilité des problèmes. D'ailleurs, c'est écrit dans les... On va le relire, je l'ai lu, il y a une prédication il n'y a pas longtemps, mais j'ai quand même à cœur de le relire, parce que c'est un verset, alors il faut que je le retrouve, c'est dans... c'est le cantique de Moïse, donc c'est Moïse. C'est Deutéronome 32. Dans le cantique de Moïse, il y a un texte qui fait énormément réfléchir, et qui a certainement amené beaucoup d'impies à revoir leur position par rapport à la façon de s'adresser à Dieu. Dans Deutéronome 32, au verset 4, c'est un cantique, et dans ce cantique, il y a quelques questions adressées aux pécheurs. Alors, Deutéronome 32, 4, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Toutes ses voies sont justes. Si Dieu a créé le ciel et si Dieu a créé l'enfer, tenez-vous bien, c'est qu'il sait ce qu'il fait. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable ? » Alors il ajoute, comment il nous considère ? Si on pense ça, peuple insensé et dépourvu de sagesse. Est-ce qu'on va rendre Dieu responsable de la liberté qu'il nous a donnée ? Il nous a fait libres. La liberté, nous l'avons utilisée comme nous avons voulu pour introduire le péché dans le monde. C'est nous qui l'avons introduit, c'est pas Dieu. Et malheur aux hommes qui rendent Dieu responsable. Heureux l'homme qui est capable de dire oui, c'est nous qui avons choisi. C'est nous qui avons péché, parce que là on est sur une voie de rédemption et de restauration. Mes frères et sœurs, Jésus, il est venu sur la terre. Il est venu, et lorsqu'il est venu, il a manifesté sa bénédiction. Il a guéri les âmes. Est-ce que Jésus peut encore guérir des corps ? Mais combien d'hommes et de femmes ont été guéris physiquement et n'ont pas pour autant fait la paix avec Dieu ? Ça doit être terrible de se retrouver dans l'éternité, avoir été béni physiquement, socialement, matériellement, par la grâce de Jésus-Christ, et n'avoir pas utilisé cette bénédiction comme tremplin pour faire la paix avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et il y en a des cas comme ça. Il y en a des hommes qui disent, Seigneur, mais tu as fait ceci, tu as fait cela, Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Jésus est capable de délivrer. Ce soir, est-ce que Dieu est capable de guérir un corps? Il y a quelqu'un qui est malade ce soir? Moi, j'aimerais que l'on prie pour lui. Et je crois que Dieu va le guérir. Je le crois. Même si la personne ne voulait pas se convertir. Est-ce que Jésus peut la guérir quand même? Moi, je le crois. On l'a vu. On l'a vu souvent. Nous, ça nous rend perplexes parfois, mais c'est vrai. Le Seigneur, il sait tout. Il y a 10 lépreux un jour qui sont venus. Il y en a qu'un qui est revenu se convertir. Il y en a 9 qui ont pensé qu'à leur vie sociale. Il y en a qu'un qui est revenu pour donner gloire à Dieu. Il y en a qu'un sur 10. La proportion est toujours la même à peu près. Hélas. Dieu est capable de pourvoir quelqu'un peut-être et sans emploi ce soir. Est-ce que Dieu peut lui donner un travail? D'une manière, oui, moi je le crois. Ainsi de suite. Mais Jésus n'est pas venu que pour guérir les corps, que pour bénir matériellement. Jésus, il est venu pour apporter le pardon des péchés. Aujourd'hui, le Seigneur, c'est un Dieu de prospérité. Si vous tenez un petit peu au courant du milieu évangélique, il y a énormément d'évangiles qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Dieu vous bénira. Donnez beaucoup. Donnez, s'il vous plaît, donnez. Et Dieu vous le rendra. Mais ça, c'est pas écrit comme ça. C'est écrit, c'est vrai, que Dieu est capable de bénir. Mais l'évangile de prospérité n'est pas biblique. Si Dieu veut faire prospérer quelqu'un, qu'il le fasse prospérer. Mais la vie, c'est pas une question de prospérité ou de pauvreté. La vie, c'est se préparer à rencontrer Dieu. Que vous soyez pauvre ou que vous soyez notable, ça n'a aucune importance. Il faut tous que vous vous prépariez à rencontrer Dieu. Jésus n'est pas venu que pour guérir les corps et que pour voir, Jésus est venu pour mourir à notre place. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus-Christ, le petit Jésus, c'est le grand Dieu de l'univers qui a créé les cieux et la terre. Il est venu souffrir à votre place. Il a subi les angoisses, il a subi le châtiment, il a subi les crachats, il a subi les injures, il a subi la couronne d'épines, il a subi la crucifixion, les 3 heures de ténèbres sur la croix où il s'est chargé du péché du monde, où il s'est chargé de la colère de Dieu qui aurait dû tomber sur toi. J'aime pas tutoyer, vous le savez. Mais quand je dis toi, c'est pour que chacun nous comprenions que c'est une affaire personnelle. Il est mort à ta place. N'oubliez pas, c'est pas un prophète, c'est pas un enseignant, c'est pas un homme de bien, c'est pas le premier communiste comme je l'ai entendu dernièrement. Enfin bon. Jésus, c'est le Dieu de l'univers, dépouillé de gloire, qui est en train de mourir pour que vous n'alliez pas en enfer. Que le nom du Seigneur soit éternellement béni. Il n'était pas obligé de le faire. Nous, tout ça, c'est rentré dans notre cerveau parce qu'on connaît la Bible. Mais je peux vous dire que Jésus n'était pas obligé de venir. Et nous étions tous alors voués à la perdition éternelle. Il a pris la colère. Et quand Jean-Baptiste présente... On peut le lire, parce qu'il y a des textes qui nous parlent sur l'enfer et le paradis et l'importance d'éviter l'enfer, ils sont nombreux. Regardez dans Matthieu 3. Dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste présente le ministère de Jésus. Voilà, ça c'est l'histoire du petit Jésus. Voilà, on y est dedans. Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3, il dit, on peut lire, quand Jean-Baptiste parut, vous savez que c'était le cousin de Jésus, il avait 6 mois de plus que lui, Matthieu 3, verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Quel était son message? Il disait, repentez-vous. Ça, c'est le premier message qu'on lit dans la Bible. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. » Je comprends maintenant pourquoi il est parlé d'une voix qui crie. Moi, je ne comprenais pas quand je me suis converti pourquoi Dieu crie. Il crie parce qu'il est oublié, il ne peut pas se faire entendre. Voilà, comme nous, ça ne vous est jamais arrivé de crier? Tu n'entends pas ce que je dis? Non? Vous avez compris? Si Dieu crie, ça veut dire qu'il a énormément de mal à se faire entendre. Et croyez-moi, c'est vrai. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir ?» Ça, c'est pas une question. Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Mais je veux dire, c'est le diable qui nous apprend ça. À ne pas penser à cela. Croyez-moi. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'est comme les gens, mais moi j'ai ma religion. Vous voyez, aujourd'hui c'est ça. Les gens ne vont pas dire, j'ai Abraham, ce n'est pas des juifs. Mais en France, mais moi j'ai ma religion. Je suis catholique, je suis évangélique, je suis protestant, je suis pentecôtiste. Moi j'ai ma religion. Ce n'est pas ça qui sauve, croyez-moi. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, dont il résume le ministère de Jésus. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. On peut pas parler. Jean-Baptiste était un homme plein d'amour. Et là, dans l'expression de son ministère, il résume le ministère de Jésus et il pose la question, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Et beaucoup de chrétiens, même parmi nous, moi je vous le dis, parce que si Dieu me le met à cœur, c'est pas que pour les gens qui écoutent sur Internet. Vous le comprendrez bien. Beaucoup de gens parmi nous se contentent de leur religiosité, de leur présence aux réunions, et je peux vous dire qu'ils ne sont pas conscients que la colère de Dieu va venir. Et que même si Dieu nous reprenait, quel drame! Moi j'y pense tout le temps, aux gens qui ont chanté ces cantiques, qui ont écouté des prédications comme celle-ci, et qui sont partis en enfer, on en parlera dimanche, vous connaissez la parabole de Lazare et du mauvais riche. Les gens qui ne prennent pas au sérieux et qui se permettent de rigoler avec ça. Moi, je vois les gens qui rigolent. Et je me suis rendu compte que j'entends plus souvent... Écoutez, vous allez me croire ou pas me croire. On entend plus souvent le mot « enfer » dans le monde. On utilise cette expression maintenant dans le monde. Oh, c'était infernal. Oh, celui-là, il a chanté une chanson, mais d'enfer. On n'entend pas ça dans le monde. Et dans l'Église, on n'entend plus ce mot. Ça fait pitié. Je sais qui c'est qui est derrière tout ça, croyez-moi. Mais quelle question ! Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Dieu dit, mais il faut préparer le chemin, il faut se préparer. Je n'ai rien à faire sur une estrade si je ne vous prêche pas ces choses. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'éteint pas. Le feu éternel, on l'a lu dans Jude, la peine d'un feu éternel. Et moi, je vous pose la question, je nous pose la question. Vous qui êtes ici ce soir, vous qui écouterez cette prédication, où passerez-vous l'éternité ? Il vous faut répondre. Mais pas à moi, mais à vous-même. Est-ce que vous pouvez ce soir dire, oui, je sais que si je meurs ce soir, ou si Jésus enlève l'Église dans la nuit alors que je serai en plein sommeil, je sais où j'irai. Je sais où j'irai. Ou est-ce que vous faites partie de ces gens qui ne se soucient pas de connaître Dieu ? Est-ce que vous vous permettez de dire, ben on verra bien après si c'est vrai, si Dieu est bon ? Mais vous croyez que Dieu ne nous a pas prouvé son amour ? Si Dieu est bon, vous rendez compte, la ruse de l'ennemi pour faire en sorte que les gens ne se convertissent pas et ne se repentent pas. Moi je l'entends souvent ça, vous l'avez entendu des dizaines de fois chacun. Tous vous l'avez entendu, eh ben si c'est vrai, on verra après. Et on s'en tire avec une pirouette, mais on ne s'en tire pas très bien. On pense régler un problème, mais le problème, il est là. Mes frères et sœurs, Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes la pensée de l'éternité. Tous les hommes ont la pensée de l'éternité. Alors les gens, ils ne vont pas croire en Dieu, mais ils vont prier les morts. Ou un proche, une fois que quelqu'un est mort, ils vont se mettre à le prier. C'est bien la preuve que l'homme a la pensée de l'éternité. Ce sont des choses en abomination devant Dieu, la prière pour les morts. Ça, c'est le flirt avec le spiritisme, ça. C'est le début du spiritisme, sans que les gens ne s'en rendent compte. Dieu est juste. On l'a lu, il n'y a pas un Dieu de favoritisme. Et la pensée de l'éternité suffit à un homme de commencer à se préoccuper des choses spirituelles. Et toute la Bible enseigne qu'il n'y a que deux lieux après la mort. Un monde d'amour, de paix, de félicité, de gloire, on l'a lu dans les Romains, ou un lieu de ténèbres, de tourments et de larmes. Il n'y a que deux lieux, le purgatoire, c'était une invention du catholicisme. Je suis désolé de le dire, mais à des moments, il faut être quand même clair, c'est une invention. Je ne sais plus de quel siècle ça date. Il n'y a que deux lieux, où le ciel est la gloire, où l'enfer est la malédiction éternelle. Amen. Jésus l'enseigne dans le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, j'ai parlé de Matthieu 3, mais le premier sermon de Jésus, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit « Repentez-vous », mais il dit « Entrez par la porte étroite ». Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup, beaucoup, hélas, qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. On retrouve souvent dans la parole de Dieu ces deux expressions, le peu et le beaucoup. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça ne veut pas dire que Dieu en appelle beaucoup. En vérité, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Vous le savez ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais voilà, Dieu appelle tous les hommes et il y en a peu qui répondent. Parce que les gens sont aveuglés, parce que les gens ne voient pas l'importance. Les gens se disent, mais tout ça, mais attends, mais il ne faut pas rêver. L'éternité en enfer, mais tu rêves. Mais pourquoi Jésus a-t-il tant souffert? Pourquoi Jésus a-t-il tant souffert? Pour qu'on n'aille pas en enfer. Et je voudrais avertir les pécheurs, les impies, mais les chrétiens aussi, qui sont tièdes, les chrétiens qui sont comme ces vierges folles, qui n'ont pas d'huile. Vous savez quand même qu'il est parlé à cette reprise des pleurs et des grincements de dents. Et à qui Jésus adresse-t-il chaque fois cet enseignement? C'est aux chrétiens qui ne sont pas prêts. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas sérieux, qui ne se soucient pas, qui ne lisent plus la Bible. Quelqu'un me dit dernièrement, moi la Bible, je la lis à l'église quand je viens. Moi, je suis poussé, et dimanche, je pense que je poursuivrai ce sujet parce que je suis convaincu que Dieu le veut, à avertir les hommes qui ne sont pas prêts à l'éternité. Mes frères et sœurs, j'espère que vous le comprendrez. Et combien je voudrais encourager tous les chrétiens qui sont prêts à prier pour que le Saint-Esprit agisse dans cette ville de Toulouse, pour que des pécheurs viennent, que des fils prodigues reviennent, pour que des âmes qui ne se soucient pas de connaître Dieu, pour que même les chrétiens charnels, ceux qui disent « Oh ben non, on a Abraham pour père, moi j'ai la religion de mes parents, moi j'ai pris le baptême, moi je crois en Dieu. » Mais vous croyez que parce qu'on croit en Dieu, on est sauvé? Les démons croient et ils tremblent, et je comprends pourquoi ils tremblent, parce qu'ils savent ce qui les attend. Parce qu'eux aussi ont fait le choix, il y a bien longtemps. Mais toutes les créatures créées par Dieu ou procréées par Dieu, comme nous qui sommes procréés par nos parents, mais qu'on soit créé ou qu'on soit le résultat de la procréation, toutes les créatures dans les cieux et sur la terre auront eu la liberté de choisir. Et les démons, ce sont des anges qui ont choisi de suivre Lucifer, Satan, dans le choix qu'il a fait de révolte, parce qu'eux aussi avaient la liberté de choisir. J'encourage les chrétiens, vous mes frères et sœurs, qui avez de l'assurance, qui êtes sauvés, qui êtes conscients de l'éternité, qui savez que bientôt nous allons être avec lui dans la gloire céleste. Quel programme merveilleux et quel programme terrible pour ceux qui ne sont pas prêts. Et je frémis à l'idée de l'enlèvement, même parmi nous, quand je pense à la quantité de personnes qui ne sont pas prêtes. Il faut prier, mes frères et sœurs. Vous êtes d'accord, les chrétiens? De prier pour que vraiment l'Église soit embrasée de cette ferveur, de cette onction du Saint-Esprit, que nous n'ayons pas honte de prêcher sur l'enfer. Il y a des églises, on se pose la question, est-ce qu'il faut prêcher sur l'enfer? Prêcher sur l'enfer, n'est-il pas un manque d'amour et un manque de charité? Alors dites-moi, qui oserait reprocher au Seigneur Jésus de manquer d'amour et de charité? Relisez les évangiles et vous allez voir le nombre de fois où Jésus-Christ parle de l'enfer. Il n'en a pas parlé, vous avez vu les deux textes qu'on vient de citer. Jésus était-il rempli d'amour? L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, n'était-il pas appelé l'apôtre de l'amour? L'apôtre Jean, ce n'est pas l'apôtre de l'amour. Vous avez lu l'Apocalypse? Qui c'est qui parle de la colère à venir? Qui c'est qui parle de l'enfer? Qui c'est qui parle de ces choses? C'est pas l'apôtre de l'amour. Est-ce que quelqu'un pourrait dire, oui, mais monsieur Gaulle, il nous aime pas, il aime pas. Mais Jésus, l'apôtre Jean, personne n'oserait se permettre de dire qu'il manquait d'amour. Et on évite de parler de l'enfer, d'avertir les hommes parce qu'on a peur. On a peur de blesser les gens. Oh, si on en parle sur l'enfer, ils reviendront pas. Ils reviendront pas écouter la parole de Dieu. Et s'il y en a qui s'en vont, ils donneront plus leur offrande. Écoutez-moi, alors ça, je vais vous dire. Je crois que ma responsabilité, c'est d'honorer la parole de Dieu. Et de vous dire à vous qui êtes perdus, ou aux chrétiens qui êtes tièdes, ou qui n'avez plus d'huile, qui ne vous occupez pas de votre âme, revenez à Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous mouriez dans votre péché. Ce que Dieu veut, c'est que vous obteniez la gloire. Il est mort pour cela. Dieu l'a déclaré, mais c'est sans ambiguïté dans la Bible. Quelqu'un qui a lu la Bible, il sait que ce que je vous dis est vrai. L'enfer, c'est la destinée maudite de tous les hommes, de tous les êtres humains impénitents qui rejettent Jésus-Christ. Ils ne veulent pas changer parce que ça les dérange. Parce que si je me convertis, ah, mais je ne pourrai plus magouiller. Mais vous ne serez jamais autant libre que de ne plus magouiller. Et on pourrait multiplier les exemples. Un des vrais problèmes, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les pasteurs, les prêtres, tout ça, on ne prêche plus la croix. On ne prêche plus sur le ciel et sur l'enfer. Ça c'est le grave problème. C'est de notre côté. Dieu nous rendra responsables. Moi, je n'ai pas envie que quelqu'un un jour me dise, si je suis en enfer, c'est ta faute. Tu nous prêchais sur ceci, sur cela, et tu ne nous prêchais pas sur ce sujet si sérieux. Moi, je n'ai pas envie d'entendre ça. Mais le vrai problème aussi, c'est que nous n'avons pas cette perception de l'éternité. On a la pensée de l'éternité, mais c'est une pensée. On n'a pas la perception de vivre éternellement dans un lieu de perdition avec les démons. Parce qu'au départ, l'enfer, il a été créé pour le diable et pour les anges. Mais comme les hommes ne veulent pas se convertir, eh bien c'est leur destinée. Et ça, c'est un des problèmes. Jésus a été appelé l'ami des pécheurs. Pourquoi ? Parce qu'il vous aime. Même si vous êtes dans votre péché ce soir, il vous aime. Et qu'est-ce qu'il veut devenir, le Seigneur Jésus? Il veut devenir votre avocat. On a un cantique qu'on chante depuis quelques mois, devant le trône du Très-Haut. Il nous est dit que Jésus sera notre avocat devant le Père. Et c'est écrit que celui qui témoignera publiquement, c'est écrit celui qui confessera le nom de Jésus-Christ publiquement, moi, dit Jésus, je prendrai sa défense devant le Père dans le ciel. C'est pas écrit comme ça? Ou à peu près comme ça? Mes frères et sœurs, pourquoi dimanche nous aurons un baptême? Pourquoi il y en a plein qui demandent le baptême en ce moment? Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des gens qui ont compris l'importance de s'engager avec Dieu. Car la Bible dit celui qui confessera le nom de Jésus-Christ, celui qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, il sera sauvé. Et ne nous amusons pas, ne vous amusez plus, s'il vous plaît, à mettre sur Dieu la responsabilité de votre joie. Vous posez-vous la question, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Voilà la question qu'il faut vous poser. Vous savez peut-être pas où vous allez les prochaines vacances, c'est pas grave. Ça, pour les jeunes, c'est important. Ou la retraite, alors ça, c'est important. Mais la question que tous les hommes devraient se poser, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que le Créateur du ciel devienne mon Père céleste? Parce que là aussi, on dit aujourd'hui que, ça c'est la religion, vous voyez, on dit que Dieu est le Père de tous les hommes. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Dieu est le Créateur de tous les hommes, mais il n'est que le Père de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur. Jésus a dit à des religieux, des pasteurs même qui étaient là, des prêtres, et ça, vous avez pour Père le diable. Et c'était des gens, je vous assure, plus religieux que nous, croyez-moi. Alors ce soir, y a-t-il quelqu'un qui dit, moi je veux me repentir, je veux donner mon cœur à Jésus, je veux pas traiter ce sujet à la légère, je veux pas me contenter d'un peu de religion, d'aller au culte ou à la messe de temps en temps, de faire quelques prières en pensant que ça me permet d'être prêt. Jésus a dit au pasteur d'Israël, au docteur d'Israël, au docteur des docteurs, il lui a dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. C'était le pasteur des pasteurs. Et à cet homme-là, écoutez, si Jésus a dit à cet homme, qu'il ait dit au brigand sur la croix, après, il faut qu'il se repente, c'est une chose. Mais au docteur des docteurs, Jésus a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ça s'appelle la repentance, la nouvelle naissance, la conversion. Je te demande pardon. Oui, je ne me suis pas occupé de toi, je me suis moqué de toi. Dieu peut pardonner tous les péchés. Dieu peut pardonner tous les blasphémateurs. Il est écrit, tout péché, tout blasphème sera pardonné. Mes frères et sœurs, mes amis, vous qui écouterez cette prédication, soyez sérieux, soyez réconciliés, comme c'est écrit sur le fond de l'assemblée, soyez réconciliés avec Dieu. Il est mort, le Seigneur Jésus, pour porter vos péchés. Il est mort pour que vous n'alliez pas à l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus, je voudrais justement terminer avec cette pensée. Il a été enlevé par l'angoisse. Vous avez vu tout ce que Jésus a subi? Moi, je ne m'y habitue pas. Je ne sais pas vous qui êtes convertis depuis longtemps. Moi, plus je le relis ces choses, plus le dimanche, je prends le pain et le vin. Je vous le dis, c'est vrai, je ne suis pas en train de me mettre en avant, mais c'est la vérité. Plus je suis ému. Je pensais m'y habituer avec les décennies. Tu vas prendre la Sainte-Seine, tu vas le faire tous les dimanches. Je pensais m'y habituer. Eh bien, je vous dis la vérité. Chaque dimanche qui passe me remplit d'admiration pour l'œuvre de Christ. Chaque fois que je prends mon petit gobelet de vin, je pense à ces épines qui ont transpercé son front. Où je pense à cette sueur dans le Gethsémané, où je pense à ces coups de fouet, je pense toujours, d'une manière ou d'une autre, à la façon dont le sang de Jésus a coulé. Pourquoi il a accepté ça? Pourquoi il a accepté? Parce que c'était le seul moyen de ne pas aller à l'enfer. Et c'est sur la terre que notre péché peut être pardonné. Si c'était possible après, Jésus n'avait pas besoin de venir. Jésus a dit à cet homme, ce paralytique qu'on a descendu par le toit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Oui, il faut parler de l'enfer, mais il faut parler que Jésus a le pouvoir de nous pardonner pour que nous n'y allions pas. Et Dieu veut vous sauver. Vous vous êtes moqué de Dieu jusqu'à aujourd'hui, mais vous pouvez ce soir dire, « Seigneur, je te demande pardon. » Est-ce que Dieu va vous pardonner? Parce que la porte est ouverte, parce que Jésus est assis sur le trône de la grâce, parce que Jésus est encore dans la dispensation de la grâce. Mais un jour, vous le savez, la porte, elle sera fermée. Et le Seigneur, je crois que dans toutes les églises du monde entier, il voudrait que l'on continue à prêcher sur le ciel et sur l'enfer. Fermons les yeux quelques instants. Je voudrais faire un appel vraiment sérieux. C'est entre vous et Dieu. Je m'adresse aux pécheurs, aux personnes nouvelles, aux gens qui veulent prendre au sérieux ce que j'ai dit, et peut-être même aux chrétiens qui ne sont pas tout à fait sûrs que si Jésus revenait, vous seriez prêts. Risqueriez-vous votre éternité, la tiédeur? Vous connaissez ce verset, « Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, afin que ces choses ne sortent de ton cœur. » Et je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un de venir faire la paix avec Dieu. Approchez-vous si vous le désirez. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas m'amuser avec ça. Peut-être quelqu'un ressent dans son cœur le besoin que l'on prie pour lui. Venez sur le devant. C'est entre vous et Dieu. C'est une affaire trop sérieuse. Si vous avez dans votre cœur ce besoin, je veux qu'on prie pour moi. Vous savez, Dieu voit ces choses. Dieu voit lorsqu'un homme se repent, lorsqu'un homme se convertit. On va prier pour ce frère qui s'approche. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut s'approcher, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dit, moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. Alléluia. Vraiment, vous restez dans le recueillement. Je supplie les chrétiens de prier pour que s'il y a un pécheur dans l'auditoire, il soit saisi par cette prédication. Si vous êtes sauvé, si vous êtes béni, donnez votre cœur à Jésus. Priez pour que les gens donnent leur cœur au Seigneur. S'il vous plaît, frères et sœurs, on va prier. On va prier de tout notre cœur. Voilà, priez à votre place. Vous qui êtes assis à votre place, si vous sentez, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de Dieu. N'ayez pas honte. Donnez-lui votre vie. Repentez-vous et Dieu vous pardonnera. Je voudrais aider celui qui lutte dans son cœur. Celui qui n'a pas osé, peut-être le chrétien tiède, le chrétien sans huile, je voudrais l'aider, vraiment avec amour. Peut-être vous éprouvez le besoin de dire « j'ai besoin ». N'ayez pas honte. Nous ne sommes pas là pour nous juger, nous sommes là pour nous bénir, pour réclamer la vie de l'Esprit. S'il y a quelqu'un qui ressent dans son cœur, avancez-vous. Laissez Dieu vous bénir. Laissez Dieu vous toucher, vous relever, vous restaurer. Je sais qu'il y a quelqu'un qui lutte, qui n'ose pas s'approcher. Je réitère mon appel. La porte est ouverte. La porte de la grâce est ouverte. La porte est ouverte. Alléluia.